D'autres sont de simples résurgences de mouvements nationalistes de provenance espagnole, française ou allemande, dont le but avoué ou secret demeure la libération de l'Europe. Il me vient parfois l'idée que Hébert serait bien inspiré en concluant avec le Vatican l'accord actif que celui-ci ne cesse de quémander. En 3 semaines, nos armes mettraient à la raison les trublions naïfs et notre gouvernement en serait facilité. Mais Hébert ne veut prendre parti dans aucune querelle religieuse. Je soupçonne qu'il ne veut pas surtout rendre à l'Église apostolique romaine une primauté dangereuse, heureusement abolie. Malgré l'évolution des sciences, et particulièrement de la biosociologie, la grande loi politique demeure le britannique principe « diviser pour régner », aux représentants légaux de s'en arranger le mieux qu'ils peuvent. De ces harcèlements, je donnerai un seul exemple. Hier, je recevais en audience le Monsignore Valacci au sujet d'une banale question d'ordre public. Sa coutumière diplomatie l'avait abandonné. Il m'attaqua en ces termes. « Voulez-vous qu'on dise que les USA ne peuvent plus se faire respecter à Rome ?» Un représentant légal n'a pas la charge de rendre la justice. Et Monsignore Valacci ne l'ignore pas. Cependant, il entre dans mes fonctions de trancher tout litige qui s'élèverait entre la population romaine et les forces de dissuasion. C'était sur ce plan que le nonce cherchait à placer l'affaire de manière à me forcer la main et à me contraindre à l'intervention personnelle. Je voulus lui faire comprendre qu'il était deviné. « Ce Vitellio, pouvez-vous me prouver qu'il ait commis la moindre action contre le pouvoir ?»« Tous les Darconiens, me répondit-il, sont royalistes dans l'âme. Ils conspirent donc contre l'Empire démocratique. Devrais-je les condamner tous ?» Le Monsignore tout sauta gêné. Ce Vitellio ne se contente pas de prêcher, il offense tous les jours les lois de l'Empire. Des faits, il parcourt les rues de Rome à demi nues. Vraiment? Et la police peut intervenir? Il conseille aux femmes les mœurs saphiques, aux hommes la pédérastie, et il prêche par l'exemple. Il a été vu, c'est un fait, embrasser l'un de ses compagnons sur la bouche. Coutume pascale, sans doute. Il interdit à ses disciples de se laisser soigner par les médecins, sous prétexte que la foi guérit tous les maux. Sont-ce des esclaves? Ne sont-ils pas eux-mêmes responsables de ce qu'ils font? Le nonce se dressa furieux. « Pourquoi protégez-vous cet homme? Je ne le protège pas, je ne l'ai jamais vu. Je l'imagine comme un rêveur inoffensif, dont les discours confus, d'ailleurs anachroniques, ne peuvent séduire personne. Vous prétendez en faire un criminel, je demande vos preuves. Demain, vous aurez son dossier sur votre table. Vous pourrez juger vous-même. » Il me quitta sur ces mots auxquels je ne répondis rien. Mais sitôt son départ, j'ai convoqué Bexley, le capitaine de police, et je lui ai demandé de faire surveiller et suivre le nommé Vitellio à compter du soir même. Si je ne me trompe, avant 8 jours, les séides du Vatican auront trouvé contre le prophète une ferme base d'accusation. Si cela est, tant pis, mais je n'admettrai pas une accusation créée de toutes pièces. Fin du paragraphe écrit le 2 avril. Le 7 avril. Le plus irritant est de constater le peu que nous savons sur le compte de cet homme. Les 3/4 du dossier ne sont que ragots et légendes qui passent de loin les bornes de la vraisemblance. C'est ainsi que Vitellio est présenté comme né en février 1962. En une semaine, dont les astrologues de l'époque ont signalé les aspects fabuleux. Cette planète réunie dans le Verseau, cette fable donnerait à l'homme 215 ans. Qui étaient ses parents? Quelle fut son enfance? A-t-il appris un métier? Suivi un enseignement quelconque? il est possible qu'il ne sache ni lire ni écrire, du moins ne connaît-on pas une ligne de sa main. Les catholiques le prétendent le fils d'une jeune protestante et d'un soldat américain. Il apparaît soudain à Rome, en 2160, adepte d'une secte ridicule, les Darconiens, dont le fondateur est inconnu et qui se présente comme un ramassis de nationalistes fanatiques. Au lendemain de la grande panique, une centaine de ses membres auraient été appréhendés et condamnés à diverses peines de prison. Les paroles de Vitellio le montrent honnête et convaincu. Ses actions, si le dossier est vrai, sont d'un fou. Tout ce qui constitue le cœur de notre vie, les cadres de notre pensée, apparaît journellement bafoué par lui. Non seulement il méprise les « faveurs méritées » et les « crédits vitaux », mais également l'obligation respectée par tous les hommes d'assumer une activité convenable. Il semble, ainsi que ses disciples, vivre de la charité publique, mais les services de la police ne l'ont jamais pris en flagrant délit de mendicité. Selon le dossier, plusieurs personnes de la plus haute société, parmi lesquelles, étrangement, un cardinal, lui ouvriraient leurs portes d'une manière permanente. Mais il n'est pas certain qu'il use assidûment de cet avantage. De même, bien que, chaque jour, il prêche sur les places, nous n'avons pu le surprendre, organisant la moindre quête, comme c'est le cas dans la plupart des sectes. Reste la thèse qu'il passe pour soutenir publiquement. Une profession de foi la contient tout entière. Le réel n'existe pas, ou plus exactement, l'homme appelle réalité l'ensemble des représentations plus ou moins imaginaires qu'il se fait du monde. Il s'ensuit que nos sens ne sont que les serviteurs dociles de notre passion et que notre raison n'est que l'esclave de nos croyances. Les lois et les principes des sociétés, les lois et les principes des sociétés apparaissent alors comme les seules entraves que la réalité opposerait à l'homme, souverainement libre. Ces théories ne présentent rien de bien nouveau pour moi. Dès le milieu du XXe siècle, après la guerre de 39-45 précisément, certains intellectuels commencèrent de penser que le réel n'est pas nécessairement la même chose que le connu. Des philosophes cernaient l'idée qu'on ne découvre pas, on ne connaît pas la réalité, on la crée seulement. Sous le nom de sémantique générale renaissaient les vieilles théories platoniciennes. Des poètes s'exerçaient à faire du mot non plus le moyen mais l'objet de leurs recherches. Des savants parmi les plus grands reconnaissaient qu'on ne peut rien observer valablement sans tenir compte de l'observateur. Puis la vie même, dans sa structure moléculaire, apparut liée aux mathématiques tensorielles, tout comme les mouvements des astres ou les variations des radiations cosmiques. Pendant 2 ou 3 lustres, entre 1960 et 1980, note de la lectrice, livre écrit en 1964, pendant 2 ou 3 lustres entre 1960 et 1980, on put croire qu'on assistait à l'éclosion d'une culture entièrement nouvelle, où l'esthétique et les mathématiques, sciences de la création, allaient remplacer à elles seules toutes les sciences et toutes les philosophies. Ce fut l'époque où des juges refusèrent de juger parce qu'ils ne pouvaient plus condamner la mère qui tuait son enfant au berceau sans condamner le médecin dont les drogues avaient fait de cet enfant un monstre. ni condamner l'espion qui donnait à l'ennemi les secrets militaires de son propre pays, sans condamner le savant dont l'œuvre avait rendu possible la destruction d'un peuple, ni condamner le voleur, insurgé contre un ordre où triomphait partout le mensonge ou l'imposture, parce qu'on ne pouvait plus condamner personne sans juger tout le monde. Ce fut l'époque où l'enseignement se mua en une sorte de jeu, comme au plus beau jour de la Grèce, car nul maître ne croyait plus en la sereine vérité, mais il l'amusait d'apprendre à ses élèves l'art de puissants états entreprendre d'étranges parties. Cela tenait des échecs, mais aussi du théâtre. Le Portugal, l'Espagne, la France jouaient à être le Portugal du XVe siècle, l'Espagne du XVIe, la France du XVIIe. D'autres pays